DW. Le journal. Nafisa Amadou.
17h en temps universel, 19h ici à Bonn en Allemagne. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Dans l'actualité, 1 milliard de dollars supplémentaires de la CEDEAO pour combattre le djihadisme dans les 4 prochaines années. Les organisations de la société civile souhaitent que l'accent soit mis sur l'aide au développement. Les résultats du premier tour de la présidentielle tunisienne d'hier ne sont que partiels, mais un duel anti-système se dessine pour le second tour. Dans ce journal également, le point sur l'affaire de disparition d'environ 15 millions de dollars des caisses de l'État impliquant Vital Kamerhe en République démocratique du Congo. Les cours du pétrole en hausse après l'attaque de drones sur des installations en Arabie Saoudite. Selon la coalition sous commandement saoudien, l'armement utilisé est de provenance iranienne. Mais avant de développer tous ces titres, le bulletin d'information présenté ce soir par Marco Volter.
Bonsoir à toutes et à tous. Et à la une ce soir, la rencontre entre Boris Johnson et Jean-Claude Juncker. Le Premier ministre britannique était à Luxembourg pour s'entretenir avec l'encore président de la Commission européenne, alors que la date prévue du Brexit, soit le 31 octobre, approche à grands pas. Les deux hommes ont estimé qu'il était nécessaire d'intensifier les discussions et d'organiser des rencontres quasi quotidiennes désormais. Boris Johnson en a aussi profité pour redire qu'il ne demandera pas de report du Brexit, comme l'exige le Parlement britannique en cas d'absence d'un accord entre Londres et l'UE. Selon lui, dans une interview tout à l'heure, il est possible de trouver un accord, mais à condition que l'Union européenne bouge. Voilà un enthousiasme qui contraste avec la sobriété du communiqué de Bruxelles. La Commission estime en effet que la rencontre Johnson-Juncker avait seulement permis de faire le point et que Londres n'avait pas encore proposé de solution satisfaisante pour un nouvel accord avec l'UE.
En Italie, deux officiers vont se retrouver devant la justice pour ne pas avoir assez rapidement porté secours lors d'un naufrage de migrants.
Oui, 260 personnes étaient mortes noyées en 2013, alors que pendant plusieurs heures, l'Italie et Malte s'étaient renvoyé la balle pour savoir qui était responsable de mener une opération de sauvetage. Les deux officiers italiens de la marine et des gardes-côtes sont accusés d'homicide involontaire.
Le cours du pétrole s'affole ce lundi.
Et ce, en réaction à l'attaque d'installations pétrolières en Arabie Saoudite, des attaques menées par des tirs d'une dizaine de drones qui ont notamment provoqué des incendies dans la plus grande usine de traitement de pétrole du monde. Tout à l'heure, à la mi-journée, le prix de l'or noir avait progressé de près de 10%, que ce soit à la bourse de Londres ou à New York. L'attaque aurait annulé environ la moitié de la production saoudienne, soit quelque 5% de la production mondiale, selon une importante maison de courtage.
Marco, cette attaque aux drones a été revendiquée par les rebelles houthis au Yémen.
Des rebelles qui sont soutenus par l'Iran et qui se battent au Yémen contre une coalition militaire menée par l'Arabie saoudite. Mais pour les États-Unis, c'est bien Téhéran qui est derrière ces attaques. Washington s'est dit prêt à riposter, sans plus de précision pour le moment. Riyad affirme ainsi avoir pu confirmer que les armes utilisées sont iraniennes, des accusations qui sont réfutées par Téhéran, alors que d'autres puissances comme la Chine et la Russie s'emploient à lancer des appels au calme et à ne pas tirer de conclusions hâtives. Plus de détails sur cette information, ce sera tout à l'heure dans la suite de votre journal.
Au Venezuela, c'est bien la fin du dialogue entre le président Maduro et Juan Guaido.
L'opposant a affirmé que ce dialogue mené sous les auspices de la Norvège a pris fin puisque le pouvoir refuserait de revenir à la table des négociations. En effet, le président Nicolas Maduro avait décidé de suspendre les discussions début août en réaction à de nouvelles sanctions américaines contre son gouvernement. Ce dialogue avait débuté en mai, d'abord à Oslo, puis à la Barbade pour tenter de résoudre la grave crise politique au Venezuela. Une crise provoquée par la décision, souvenez-vous, de Juan Guaido de s'auto-déclarer président par intérim, ce qui lui avait d'ailleurs valu le soutien d'une cinquantaine de pays à travers le monde.
Les Rohingyas vivent sous la menace d'un génocide.
C'est ce qu'ont déclaré des enquêteurs de l'ONU tout à l'heure, des enquêteurs qui demandent la saisie de la Cour pénale internationale. Dans leur rapport figure une liste d'une centaine de personnes, notamment des responsables birmans, qui sont, selon ces enquêteurs, soupçonnés d'être impliqués dans des cas de génocide ou de crimes contre l'humanité. Il ne resterait plus qu'environ 600 000 Rohingyas en Birmanie, alors que près d'un million de personnes appartenant à cette minorité musulmane ont déjà fui le pays à cause de la persécution.
C'était Marco Volter pour les dernières nouvelles du monde. Il est 17h05 en temps universel. Voici la suite de ce journal.
DW.
L'information est tombée. La procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, fait appel de l'acquittement de crimes contre l'humanité prononcé à l'encontre de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. L'appel démontrera que la chambre de première instance a commis des erreurs de droit et de procédure qui ont abouti à l'acquittement de Gbagbo et de Blé Goudé pour tous les chefs d'accusation, a déclaré dans un communiqué le bureau de la procureure. Fatou Bensouda aura désormais 30 jours pour le dépôt de son mémoire d'appel détaillant les motifs juridiques de son appel. Ensuite, la défense des deux hommes aura également 30 jours pour y répondre. Les avocats pourront, s'ils le souhaitent, solliciter un délai supplémentaire soumis à l'appréciation de la chambre d'appel. Nous reviendrons bien évidemment sur cet appel de la procureure Fatou Bensouda dans notre édition de demain matin. On en vient maintenant à la promesse d'$1 milliard supplémentaires de la CEDEAO pour combattre le djihadisme dans les 4 prochaines années. À première vue, la somme paraît importante. C'est plus du double de celle promise fin 2018 à la force conjointe du G5 Sahel par les bailleurs étrangers. D'autant que ces fonds n'ont pas tous été débloqués. Cette fois, la somme promise provient de fonds internes de la CEDEAO élargis pour l'occasion à la Mauritanie et au Tchad. Alors, Sandrine Blanchard, ce milliard de dollars, à quoi va-t-il servir exactement?
Mais pour le moment, on ne sait pas exactement. Le budget et le plan seront détaillés au prochain sommet sous-régional à Abuja, au mois de décembre. Ce qui a déjà été annoncé, c'est que la somme serait employée à renforcer les capacités opérationnelles des forces armées du G5 Sahel et des armées nationales déployées sur le terrain. Et c'est là que l'annonce déçoit les organisations de la société civile dans les zones concernées, qui mettent, elles, plus l'accent sur l'aide au développement. On écoute à ce propos Barré Chefou, il est secrétaire exécutif de l'ONG Karkara. Il travaille notamment dans la région de Tillabéri au Niger, dans la zone frontalière avec le Mali.
Ils brûlent les écoles, ils chassent les enseignants, ils s'en prennent même aux autorités locales qu'ils considèrent comme étant des informateurs du gouvernement. Les besoins, ils sont énormes parce que de toutes les façons, en dehors du besoin de la sécurité, les populations qui ont dû quitter leur village et leur ménage ont des besoins alimentaires, des besoins de soins, mais aussi des besoins d'éducation de leurs enfants.
Le politologue nigérien Souley Hadji rappelle, lui, qu'il faut agir en priorité en direction des jeunes.
Il faut occuper ces jeunes-là dans les villes, dans les communes, de trouver un emploi parce qu'il y a des impératifs sociaux qui sont justement présents dans ces villages-là, parce qu'à un certain âge, il faut que le jeune homme ou la jeune fille soit mariée. Si l'enfant a jusqu'à 25 ans ou un peu plus, il est encore célibataire, donc il y a des risques qu'il rejoigne le groupe djihadiste.
Alors Sandrine, vos deux interlocuteurs qu'on vient d'entendre recommandent que les populations et leurs aspirations soient aussi davantage prises en compte.
Oui, la consultation des leaders et associations locales est primordiale selon eux pour qu'un dialogue s'établisse avec les habitants, entre l'État et les habitants, mais aussi entre les militaires et les habitants. Et c'est ce qu'explique aussi Grit Lenz, qui dirige Focus Sahel, qui est une association allemande qui promeut le dialogue avec les acteurs de terrain.
Un grand défi est comment intégrer la société civile dans des zones victimes de violences et qui sont moins organisées pour se faire entendre. Déjà pour avoir des partenariats, pour avoir des financements, il faut avoir toute la sagesse de faire des demandes.
Voilà, et puis tous insistent bien sûr sur l'importance d'une meilleure gestion, plus transparente de l'État pour un développement vraiment durable.
Merci Sandrine Blanchard pour toutes ces informations. Le G5 est loin d'être mort. Le communiqué final du sommet de la CEDEAO montre bien le soutien de la CEDEAO au G5 Sahel et à la force mixte du bassin du lac Tchad, a souligné le président nigérien Mahamadou Issoufou, président en exercice de la CEDEAO. Pourtant, de nombreux observateurs ont annoncé les funérailles du G5 au cours du sommet de Ouagadougou et plusieurs analystes estiment que les résultats du G5 sont pour le moment très minces. Mireille Drone, bonsoir.
Bonsoir Nafissa, bonsoir à tous.
Qu'en dit-on sur les réseaux sociaux?
Eh bien, on n'exprime pas vraiment de grand enthousiasme sur WhatsApp. Isaac de RDC estime que la lutte contre le terrorisme en Afrique est un jeu de cache-cache. Les mêmes autorités et leurs partenaires internationaux qui professent combattre sont ceux qui soutiennent financièrement financièrement et logistiquement les terroristes, affirme-t-il. Voilà pourquoi on continuera toujours de tourner en rond sur cette question. Et c'est la pauvre population qui paie les pots cassés, regrette Isaac. Selon lui, il faut donc en finir avec l'hypocrisie. Sur Facebook, Baptiste Delomé affirme aussi que l'on est toujours dans le mensonge. Et sceptique également, Antoine du Togo se demande à qui profite la somme de 1 milliard de dollars qui doit être injectée sur 4 ans pour lutter contre le terrorisme. Sur Twitter, Oud Bledi se dit convaincu que la CEDEAO est une bande de mendiants qui ont détourné les millions donnés pour la lutte anti-terrorisme et ils essaient de se justifier. Alors de l'avis de Dao Pi Diomon, l'idéal serait de tout arrêter et d'activer l'architecture paix et sécurité de la CEDEAO. Les bonnes volontés y apporteront leur concours et ce tweeto observe qu'il ne faut pas perdre de vue que les États-Unis ne voient pas d'intérêt à soutenir financièrement le G5 Sahel en tant que structure multilatérale.
Comme on parle de terrorisme, sachez qu'un groupe d'hommes armés a attaqué hier un poste militaire aux abords du campus universitaire de Maiduguri, c'est dans le nord-est du Nigeria. Un kamikaze a ensuite déclenché sa ceinture d'explosifs dans le camp sans toutefois faire deux victimes. Boko Haram, hostile à l'éducation laïque occidentale, a mené depuis le début de son insurrection il y a 10 ans des attaques répétées contre des écoles publiques, mais aussi des marchés ou des mosquées. Au Burkina Faso, environ 2000 personnes s'étaient réunies à la Bourse du Travail de Ouagadougou pour dire non à la mauvaise gouvernance et au terrorisme. À l'appel de l'unité d'action syndicale et des organisations de la société civile, les manifestants ont tenté de défiler dans le centre-ville, ont été repoussés par la police avec des gaz lacrymogènes. Les autorités assurent que les organisateurs n'avaient pas déposé de demande d'autorisation de la marche dans les délais.
Vous écoutez la DW.
Kais Saied ou Nabil Karoui, le prochain président de la République en Tunisie, pourrait porter un de ces deux noms. Selon les premiers résultats partiels de l'instance chargée des élections, ces deux personnalités anti-système seraient en tête du scrutin d'hier. Le résultat d'un vote sanction déjeune à quelques semaines des élections législatives relues Koupakine.
Kais Saied et Nabil Karoui arriveraient donc en tête du scrutin présidentiel avec respectivement 19% et 15% des suffrages exprimés. Si moins de la moitié des Tunisiens se sont déplacés pour départager les 24 candidats, ils ont voulu néanmoins exprimer leur désapprobation, mécontent que les revendications de la révolution de 2011 tardent à être satisfaites. Ils ont donc porté leur choix sur des candidats qui ne sont pas issus de l'establishment, deux novices de la politique. À en croire Olga Dix, représentant de la fondation allemande Konrad Adenauer à Tunis, les partis politiques traditionnels ont échoué.
Les partis de centre, aussi les partis de la gauche n'ont pas pu s'entendre sur un candidat. Et en plus, on doit parler aussi d'une vote de sanction de Tunisiens. Ils sont sanctionnés, c'est ce qu'on appelle ici donc la classe politique. Donc les politiciens classiques qui n'ont pas été assez en contact et qui n'ont pas livré un résultat que les Tunisiens voulaient voir. Il y a toujours chômage, les frais de vie deviennent de plus en plus chers, le système de santé, éducation n'est pas au top.
Même si la situation économique est relativement bonne, avec une hausse du taux de croissance, 15% de jeunes sont au chômage. On note par ailleurs une accélération de l'inflation depuis 2017, selon la Banque mondiale. Si les résultats des élections se confirment, le juriste à la retraite Kais Saied et le magnat des médias Nabil Karoui, encore en prison pour blanchiment d'argent, se retrouveront au second tour. Même si le rôle du président de la République est plutôt protocolaire, Olga Dix estime que la Tunisie plonge dans un avenir incertain.
On ne sait pas quoi attendre maintenant de ces deux candidats. On ne sait pas exactement, une fois au pouvoir, qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils n'ont pas été élus maintenant à la base d'un programme, comme normalement les partis politiques ont. Si les jeunes qui ont voté maintenant, est-ce qu'ils ont fait ça parce qu'ils savaient exactement qu'est-ce que ça va donner ou est-ce que c'était seulement pour critiquer et sanctionner encore une fois cette classe politique?
Pour l'instant, la Tunisie est donc plongée dans l'incertitude à moins d'un mois des prochaines élections législatives. L'instance supérieure indépendante des élections doit publier les résultats définitifs au plus tard mercredi pour confirmer ou non ce vote sanction.
Et puis les avocats de Nabil Karoui, arrivés en deuxième position, comptent déposer dans les 24 heures une nouvelle demande de libération du candidat sous le coup depuis 2016 d'une enquête pour blanchiment et fraude fiscale. Il est en détention préventive depuis le 23 août à la justice et la justice a déjà rejeté par 3 fois ses demandes de libération. Il est 17h15 en temps universel et en Guinée, la Guinée où le Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana poursuit ses consultations avec les acteurs politiques et ceux de la société civile afin de doter le pays d'une nouvelle constitution. Ces discussions devraient déboucher sur la tenue des élections législatives avant la fin de l'année ou à l'organisation d'un référendum visant à doter la Guinée d'une nouvelle loi fondamentale. Cependant, la modification de la constitution qui permettrait au président Alpha Condé de briguer un troisième mandat divise les Guinéens. Hugo Flotatalon.
C'est un ballon d'essai que le président Alpha Condé a lancé en ordonnant l'ouverture de consultations autour de la tenue d'élections législatives avant la fin de l'année. Mais l'opposition estime qu'il est impossible, dans un délai de 2 mois et demi, de régler la question du choix de l'opérateur technique en charge du fichier électoral actualisé, car celui-ci contiendrait plus d'1 million d'électeurs suspects. À défaut des élections législatives, le pouvoir de Conakry pourrait cependant convoquer les Guinéens pour se prononcer sur une nouvelle loi fondamentale qui permettrait au président Condé de faire sauter le verrou qui l'oblige à quitter le pouvoir fin 2020. Pour Dansa Kourouma, présidente du Comité national des organisations de la société civile guinéenne, les consultations en cours doivent permettre de clarifier la question du troisième mandat.
Tout projet de réforme constitutionnelle qui ne clarifie pas la volonté du président en exercice de respecter les intangibilités constitutionnelles, crée un doute dans l'opinion parce que les partisans du président de la République pensent que le président, quand il va adopter une nouvelle constitution, qu'il aura la possibilité de se représenter. Et une bonne partie de l'opinion est opposée à l'idée d'un troisième mandat pour le président Alpha Condé.
Les principaux partis de l'opposition ont déjà fait savoir leur refus de tout dialogue autour de l'adoption d'une nouvelle constitution. À Conakry comme à l'étranger, l'éventualité d'une nouvelle constitution continue de diviser aussi les Guinéens. Pour Alassane Diallo, membre du Conseil des Guinéens vivant en Allemagne, le président Alpha Condé doit rester raisonnable.
Faites une nouvelle constitution pour lui permettre de se représenter, ce serait une catastrophe pour la Guinée, ce serait très dommage et je veux espérer qu'il est suffisamment averti pour ne pas lancer la Guinée dans un lendemain incertain, dans des confrontations inutiles qui aboutiront à des milliers de morts. Il faut que la Guinée vraiment s'épargne de cela et il est en mesure de le faire.
De plus en plus de Guinéens redoutent de voir la Guinée sombrer dans une nouvelle crise comme en 2010 sous le règne du capitaine Moussa Dadis Camara. L'ex-chef de la junte militaire qui voulait s'accrocher au pouvoir avait plongé le pays dans une crise meurtrière. Elle avait débouché sur le massacre du 28 septembre où au moins 150 personnes avaient été tuées.
Direction à présent la RDC pour son implication présumée dans une affaire de disparition d'environ 15 millions de dollars des caisses de l'État. Vital Kamerhe, le directeur du cabinet de Félix Tshisekedi, apparaît désormais comme un handicap pour le président congolais. Ce dernier tarde à s'exprimer sur ce sujet et la pression politique risque de s'accroître. Le point de cette affaire avec Henri Fotso.
L'affaire des 15 millions de dollars disparus des caisses du Trésor public est le premier scandale de la présidence de Félix Tshisekedi depuis son investiture le 24 janvier dernier. La présomption de détournement de cette somme par une série de personnalités dont le directeur du cabinet présidentiel Vital Kamerhe est d'autant plus embarrassante que ce dernier est le premier partenaire politique du président. Les deux hommes ont en effet conclu un accord en novembre 2018, juste avant l'élection présidentielle du 30 décembre. Jean-Paul Kouyamba, du mouvement citoyen Lucha, précise.
C'est une affaire qui arrive au mauvais moment. C'est une affaire qui paraît compliquée au sein même de la famille présidentielle. Mais nous attendons tout de même du président de la République un comportement responsable d'un homme d'État pour laisser à la justice congolaise jouer ce rôle, éclairer la population congolaise par rapport à ces détournements.
Vital Kamerhe, 60 ans, ex-président de l'Assemblée nationale et candidat à la présidentielle ayant sacrifié ses ambitions pour s'allier à Tshisekedi, est en effet au centre des accusations de l'inspection générale des finances. Nous avons ainsi tenté sans succès d'avoir la position de la présidence congolaise en contactant les services du directeur du cabinet et du président Tshisekedi. Pour Epima Koko, directeur de la Ligue des droits de la personne dans les Grands Lacs, Félix Tshisekedi doit agir.
Il doit mener aussi ses investissements investigations personnelles. Parce que il peut arriver aussi que la justice brouille les traces de cet argent. Donc là, la population attend.
Selon le rapport de l'IGF, la somme de 15 millions de dollars a atterri sur un compte privé ouvert dans une banque commerciale, la Rawbank. Ces 15 millions correspondent à une retenue de 15% qui était destinée au trésor public, prélevée sur une somme de 100 millions versée par l'État à cette compagnie pétrolière pour compenser le gel des prix à la pompe.
Parlons éducation avec Mireille Drone qui est toujours avec nous en studio. La rentrée scolaire 2019-2020 a débuté ce lundi 16 septembre 2019 dans certains pays comme au Bénin par exemple. Alors vous avez récolté quelques réactions à ce sujet.
Oui, merci pour les réformes, écrit sur Twitter Ibrahim du Bénin. Mais supprimer totalement les postes des enseignants vacataires n'est pas bien car beaucoup utilisent l'argent de la vacation pour payer leur formation professionnelle dans les écoles normales, souligne Ibrahim. Sur WhatsApp, Héro d'Azové au Bénin, toujours, se félicite, lui, des tests effectués pour évaluer le niveau des enseignants.
Nous devions tout faire cette année pour que les choses aillent mieux, c'est selon ce que dit le président. Puisque quand vous regardez au Bénin, les gens ont fait des tests au niveau des enseignants pour pouvoir donner le bon sens, pour pouvoir voir les enseignants capables d'aller tenir devant les écoliers. Puisqu'il y a des enseignants qui ne tiennent pas du tout. Si vous n'avez pas l'envie de quelque chose, vous ne pouvez pas vous donner à fond. Ce qui a permis au Bénin de faire une évaluation pour pouvoir trier le lot, pour voir ceux qui n'ont pas le niveau les laisser.
Il faut saluer la préoccupation des autorités béninoises pour améliorer la qualité de l'enseignement à tous les niveaux, estime Mamadou de Conakry, contrairement à d'autres pays africains qui ne se soucient jamais de la formation des enfants, qui pourtant constituent la relève de demain. En Guinée, poursuit-il, il n'y a même pas de niveau pour parler de qualité, aucune condition n'est créée pour permettre aux enfants de bénéficier d'une formation. Infrastructures scolaires en état de ruine, enseignants mal formés, avec des revenus dérisoires. Bref, les autorités investissent beaucoup plus d'argent à ce maintenir au pouvoir qu'à faire avancer le pays, regrette notre abonné sur WhatsApp.
En bref, au Cameroun, le procès de cette militaire accusée d'être impliquée dans l'exécution de deux femmes et leurs enfants dans le nord du pays. Le procès qui devrait s'ouvrir ce lundi a été renvoyé au 21 octobre par le tribunal militaire de Yaoundé à cause d'une grève des avocats.
DW Le monde à votre portée.
D'après le porte-parole de la coalition militaire sous commandement saoudien qui intervient au Yémen contre les rebelles houthis, l'armement utilisé dans la double attaque contre des installations pétrolières en Arabie Saoudite est de provenance iranienne. Ces attaques ont été conduites samedi dernier et ont entraîné une réduction de moitié de la production saoudienne de pétrole, ce qui a provoqué une hausse des cours sur les marchés mondiaux. Les États-Unis ont menacé de riposter militairement, mais Bara Mikael, chercheur à la Fondation pour les relations internationales et le dialogue extérieur, ne pense pas que les Américains se préparent à une action militaire visant l'Iran.
Le pire des scénarios serait une forme d'intervention militaire ou d'attaque américaine, d'attaque militaire bien sûr vis-à-vis de l'Iran ou vis-à-vis de certains de ses intérêts d'ailleurs. Mais très honnêtement, je n'ai pas l'impression, malgré l'importance de ce qui s'est passé concernant cette attaque sur des sites pétroliers saoudiens et les accusations anti-houthistes et donc par extension anti-iraniens qui en découlent, je n'ai pas l'impression que pour l'instant on soit vraiment devant ce scénario du pire.
Et quel intérêt les États-Unis ont en accusant l'Iran au moment où l'Iran rejette toutes les accusations et que ces attaques ont été revendiquées par les rebelles yéménites? Est-ce que c'est toujours un moyen de pression des États-Unis sur Téhéran?
Alors déjà, quand les Iraniens rejettent toute responsabilité, ils sont cohérents avec eux-mêmes, c'est-à-dire qu'eux-mêmes ont toujours rejeté depuis longtemps ce qui se dit sur leur éventuelle jonction et notamment sur leur procuration d'un soutien logistique aux houthistes yéménites. En contrepartie, il va de soi que les Américains ne sont pas sur la même ligne d'onde, mais ils ont aujourd'hui d'autant moins d'intérêt à être sur la même longueur d'onde qu'il ne faut pas oublier que Donald Trump lui-même est plutôt favorable à de meilleures relations ou à de bonnes relations avec les Saoudiens plutôt qu'avec les Iraniens.
Et l'Iran vient d'annoncer avoir saisi un navire près du détroit d'Ormuz, mais là, on peut quand même craindre une escalade de la violence.
Alors, ce n'est pas la première fois non plus qu'il y a un bras de fer au niveau du détroit d'Ormuz. Et les Iraniens frappent fort, essayent de frapper fort, entre guillemets, au niveau des perspectives liées au détroit d'Ormuz, afin de ne pas non plus se laisser faire au niveau de ce qui leur permet d'avoir un poumon économique. Parce qu'il y a quand même pas mal enfin aussi bien des pétroliers que des bateaux de marchandises qui circulent au niveau de ce détroit, dans un contexte dans lequel l'Iran, bien sûr, continue à être soumis à embargo international.
Bara Mikel, chercheur à la Fondation pour les relations internationales et le dialogue extérieur, il répondait aux questions de Kosivi Tiassou. On passe à la revue de presse des journaux allemands. Le ministre allemand de l'Intérieur a confirmé ce week-end que l'Allemagne était prête à prendre en charge un migrant sur quatre sauvé en Méditerranée et arrivant en Italie ou à Malte. Une annonce saluée par les éditorialistes. Marco Wolter nous fait découvrir les articles de la presse allemande.
Vous voyez, ce n'était finalement pas si compliqué, lance la Süddeutsche Zeitung, qui voit dans cette annonce un premier pas de Horst Seehofer. Même si rien n'est encore signé, un changement de ton et de direction se dessine, alors que le ministre allemand de l'Intérieur a sonné l'alerte pendant un an et demi en qualifiant le renforcement de l'immigration vers l'Europe de sorte de terrible Big Bang. Le journal prévient néanmoins qu'un changement de ton ne sera pas suffisant. L'Europe a besoin de quotas de répartition sur le long terme. Pour la Frankfurter Rundschau, l'annonce du ministre va dans le bon sens, car elle va notamment réduire la pression qui pèse sur le gouvernement italien. Enfin, la Tageszeitung aborde l'annonce sous l'angle statistique, en rappelant que l'Allemagne a accueilli l'an dernier 560 migrants naufragés sauvés en Méditerranée. Ce chiffre ne devrait pas évoluer. La prise de position de Seehofer change tout alors qu'elle ne change rien. Reste que pour le quotidien de gauche, cela montre tout de même que le leader conservateur a compris que faire de l'immigration et des réfugiés son seul thème politique pour affaiblir l'extrême droite était vain. Désormais, le ministre veut tenter le modèle opposé en gouvernant plutôt qu'en copiant l'AfD. Voilà un vrai progrès. Un autre progrès, du moins espéré, est annoncé pour cette fin de semaine, alors que vendredi aura lieu la grande manifestation mondiale contre le réchauffement climatique à l'initiative de Fridays for Future. Eh bien, Berlin doit annoncer une série de mesures pour lutter contre les émissions de CO2. Il est question de programmes d'incitation et d'aide au développement à hauteur de 40 milliards d'euros, explique le Tagesspiegel. Une somme tout aussi importante doit être versée aux régions touchées par la sortie du charbon. Là où la Grande Coalition ne parvient pas à s'entendre sur des réformes structurelles, on injecte beaucoup d'argent, dont l'argent des contribuables, pour pousser au changement vers des voitures électriques et du chauffage moins énergivore. Le journal de Berlin craint ainsi qu'on ne s'attaque pas au fond du problème et regrette qu'au lieu de mener des réformes convaincantes, la coalition va distribuer de l'argent à l'appel.
DW. Le sport. Ali Fahad.
Avec vous, Ali, on fait le point sur les grands championnats européens.
En France, le Paris Saint-Germain s'est imposé 1-0 dans les toutes dernières minutes de jeu face au RC Strasbourg. Le but de la victoire a été inscrit par Neymar, qui effectuait là son grand retour et qui a été copieusement sifflé par les supporters durant toute la rencontre en raison de son vrai faux départ cet été. Grâce à ce succès, les Parisiens restent en tête de la Ligue 1 avec 12 points au bout de 5 journées. Derrière, 3 équipes sont à 10 points. Rennes, qui a fait match nul 0-0 à Brest. Nantes, qui a battu Reims 1-0, un but de Khalifa Koulibaly. Et enfin, Marseille, qui est allé gagner 4-3 à Monaco au terme d'un match complètement fou. De son côté, Lille a battu Angers 2-1, tandis que Nice s'est incliné 2-1 à Montpellier. En Angleterre, 5e victoire en 5 matchs pour Liverpool, qui a battu Newcastle cette fois-ci 3-1. L'homme du match n'est autre que Sadio Mané, qui a inscrit un doublé. Les Reds comptent 5 points d'avance sur leur premier poursuivant, Manchester City, qui s'est incliné 3-2 chez le promu Norwich. Ailleurs, Tottenham n'a pas fait dans le détail face à Crystal Palace, victoire 4-0. Manchester United a gagné 1-0 contre Leicester. Et enfin, Chelsea est allé s'imposer 4-1 à Wolverhampton grâce à un triplé du jeune Tammy Abraham, qui a également marqué contre son camp. En Italie, le choc entre la Fiorentina et la Juventus a accouché d'un match nul, 0-0. Une contre-performance de la Juve qui profite à l'Inter, qui a battu l'Udinese 1-0 et qui prend la tête de la Serie A avec 3 victoires en 3 matchs. Premier succès de l'AS Rome cette saison, 4-2 face à Sassuolo. La Lazio s'incline 2-1 contre Spal. Et enfin, le Milan AC est allé gagner 1-0 à Vérone. Enfin, en Espagne, le prodige bissau-guinéen Ansu Fati continue de faire tourner les têtes. Le jeune homme de 16 ans a inscrit un but et offert une passe décisive à Frenkie de Jong dans la victoire 5-2 du FC Barcelone face à Valence. Le Barça, qui est pour le moment 5e avec 7 points, a une longueur de retard du Real Madrid, qui s'est difficilement imposé 3-2 face à Levante. Défaite 2-0 par la Real Sociedad, l'Atlético Madrid reste deuxième avec 9 points, soit un de moins que le leader Séville, qui est allé gagner 1-0 sur le terrain du Deportivo Alavés.